La Boboite, c'est une société coopérative ouvrière de production, c'est une SCOP, qu'on a montée il y a 3 ans. Enfin, je ne faisais pas partie de la bande au départ. Et en fait, voilà, un collectif de copains sur l'Ariège, voilà, où on aspirait à faire un peu quelque chose ensemble dans la construction, dans l'éco-construction un petit peu, et plus particulièrement la charpente et le travail du bois, voilà.
C'est un peu le débardeur avec le rythme qui va donner sur le chantier, qui va donner le tempo, et l'organisation se fait là autour. Ça ne veut pas dire qu'on est là pour commander tout le monde, mais c'est nous qui donnons le bon tempo, on se règle là-dessus, et après la complémentarité se fait entre le bûcheronnage et le cheval automatiquement.
C'est pas le client qui est roi chez moi, c'est l'arbre. C'est d'abord l'arbre, donc j'explique qu'il faut respecter les arbres. J'écoute bien sûr ce que veut le client, mais j'aiguille les choix du client vers le bien-être de l'arbre, en faisant un minimum de problèmes, enfin de dégâts sur l'arbre.
Et ce qui me plaît beaucoup, c'est que juste à l'année maintenant où nous initions une rencontre chez nous sur la gestion de la forêt écologique et durable, je fais connaissance avec le réseau d'alternatives forestières qui correspond vraiment aux mêmes objectifs. Donc je suis très content de rencontrer des gens là qui réfléchissent comme nous.
Entre cimes et racines, une série d'émissions réalisées par Radio Danzine en partenariat avec le réseau pour les alternatives forestières. Pour cette 4e émission, nous nous retrouvons en Ardèche chez les paysans forestiers de Trénas qui ont accueilli la 4e rencontre du réseau pour les alternatives forestières en mai 2010. 2 jours de discussions, de réflexions et de visites sur le terrain, dans différentes zones de forêt, où l'équipe de Trénas mène une gestion basée sur des coupes sélectives et la volonté de favoriser une forêt diversifiée. Nous écouterons des entretiens avec 4 participants au réseau. Florent Dalloz, débardeur à cheval, Gérald Houlan, élagueur bûcheron débardeur, Vincent Simon, charpentier, et Pierre Link, copropriétaire de forêt. Commençons donc avec Florent Dalloz. Nous lui avons demandé si c'était plutôt une passion pour la forêt ou pour les chevaux qui l'a incité à choisir ce métier.
C'est par la forêt, parce que j'étais déjà forestier et bûcheron, donc depuis déjà un peu plus d'une dizaine d'années. Et après, c'était un concours de circonstances qui m'ont amené aux chevaux de trait. Petit truc que j'avais depuis mon enfance, que j'avais vu des chevaux chez mon grand-père, donc les chevaux de trait m'intéressaient, mais c'était totalement abstrait. Et il y a eu un concours de circonstances qui ont fait que j'ai eu envie d'aller essayer de faire un stage pour conduire des chevaux. Et ça a été déclencheur de plein de choses. Et donc j'ai voulu raccorder avec mon métier de la forêt. J'ai pas voulu utiliser les chevaux pour du loisir ou du... juste quelque chose d'anecdotique, j'ai voulu en faire quelque chose. Voilà. Donc la première expérience était assez douloureuse, parce que ça s'est mal passé, puis après je me suis mis en tête de me former comme il faut, et d'en faire quelque chose, d'avoir une idée, d'avancer. Je crois que j'ai voulu relever un peu un défi, de dire on doit pouvoir utiliser les chevaux, mais pour ça, il va falloir maîtriser comme il faut, pour prouver que ça peut être quelque chose d'avenir et plus un truc passéiste.
Mais si on parle quand même un peu de passé, je veux dire, pendant des siècles, mine de rien, c'était comme ça qu'on a sorti le bois, parce qu'il n'y avait pas de traction, enfin, il n'y avait pas de tracteur, ni de camion, ou de treuil, ou tout ça. Donc, et puis, il y a quand même encore des pays, je crois, surtout la Belgique, je crois, mais des pays où c'est encore bien utilisé, non ?
Oui, ben on s'est servi d'ailleurs avec l'aide des Belges qui pratiquaient ce métier, qui n'avaient pas coupé avec cette tradition et qui travaillaient d'ailleurs en collaboration avec des machines. On a été chez eux aussi pour retrouver une technique et apprendre une discipline. L'idée de passéiste, c'est parce que on avait perdu le fil et que c'était l'image qu'on pas nous, mais le public avait de ça. Et on voulait montrer que ça pouvait rester un outil un très bon outil, que ce n'était pas du tout un truc ancien. Parce que voilà, pour le public, c'était, ou pour beaucoup de gens, même pour les techniciens, c'était travailler à l'ancienne. Et nous, on pensait que ça pouvait être, cette façon ancienne de travailler pouvait être moderne, voilà, en fait.
Oui, je pense que la plupart des gens qui ne connaissent pas grand-chose, ils imaginent d'abord que ça va être beaucoup plus long qu'avec des tracteurs, qu'un cheval, c'est forcément moins costaud qu'une grosse machine. Et en fait, il s'avère que en fait, souvent, ce n'est pas vrai du tout.
Eh bien, effectivement, on a l'impression qu'avec les machines qui ont une puissance et pleine de techniques hydrauliques, etc., pour travailler, ont beaucoup plus d'avantages et on s'aperçoit que en fait, les chevaux, leur qualité, c'est la souplesse, c'est l'adaptation, la maniabilité, et que ça peut être très bien un outil, en tout cas complémentaire, et qui se prête mieux à certains terrains, peut-être moins bien à d'autres, mais qui se prête mieux à certains terrains. Mais pour ça, ça voulait dire aussi que on devait être pointu sur la technique. On devait faire les choses vraiment à fond, quoi. On ne devait pas se contenter d'une petite technique et juste de se faire plaisir. On était obligé dans la démarche d'être meilleur que la moyenne pour prouver qu'on pouvait réaliser ça. Donc il a fallu tout un cheminement et tout un apprentissage de ce métier pour arriver à maîtriser et à montrer effectivement qu'on pouvait être performant, enfin respecter la nature, respecter dans le milieu dans lequel on intervient et en même temps d'être assez performant.
Parce que je veux dire, là où on est allé avec toi, on a regardé un lieu où toi tu as travaillé avec les autres de l'équipe ici à Trénins et tout ça. Bon, c'est un endroit où il y a pas mal de pentes donc, et il fallait monter en plus. Donc c'est plutôt assez étonnant pour nous, pour imaginer tout ça. Mais en fait, avec ces méthodes, je crois avec des poulies, peut-être tu pourrais expliquer un peu, mais on arrive à vraiment faire des choses surprenantes.
Parce que justement, on a des contraintes techniques importantes. Selon les terrains, il faut à la fois très bien maîtriser la technique de conduite des chevaux ou de menage des chevaux. Ça, c'est impératif. Il faut devenir un vrai bon meneur de chevaux, être capable de mener plusieurs chevaux, 1, 2, 3, 4 s'il faut. Mais aussi, il faut connaître toutes les techniques forestières pour extraire le bois. Il faut savoir servir, entre autres, là, nous, on se sert beaucoup de ça, des techniques de poulie et de câble pour faire des techniques de mouflage, diviser les charges, des renvois d'angle, etc. Et avec ces techniques, on arrive à faire pas mal de travail quand on est bien organisé, parce que la méthode de travail et l'organisation sur un chantier, en équipe, elle est très importante. Et on essaye aussi, nous, en parallèle à ça, à améliorer le matériel de traction autour du cheval, à le rendre plus léger, plus facile, plus confortable pour nous pour travailler, plus confortable pour les chevaux. On ne s'arrête pas au matériel, à ce qui existait avant. On essaye de, peut-être pas de le réinventer, mais de l'améliorer, de temps en temps avoir une idée précise pour développer du matériel, et aussi du matériel hippomobile, c'est-à-dire du matériel pour soulever des grosses billes qu'on ne pourrait pas emmener avec une attelée de chevaux. Donc de le moderniser, pas forcément en passant par le système industriel, le moderniser artisanalement, mais pour le rendre intéressant, performant et confortable pour les chevaux et pour les hommes qu'ils manipulent.
Pour comprendre un peu, quand on est dans une forêt en pente, ça veut dire parfois on est amené à, si on veut monter une bille vers là-haut, peut-être le cheval il va finalement descendre parce que, ou presque parce qu'il tire par un poulie, enfin il ne va pas forcément toujours monter, il va tirer dans un autre sens pour arriver à faire monter cet arbre, c'est ça?
Pas seulement ça, la technique des poulies et du mouflage, on démultiplie les charges. Après, les chevaux, ils peuvent travailler en contresens dans la pente, mais ils peuvent travailler dans un angle différent, sur une courbe de niveau, en travers de pente, etc. Et on a plein de figures différentes, on a plein de cas de figures différentes. Le tout, c'est de savoir comment démultiplier la charge qui est en bas. Et s'il y a une charge de 2000 kg en bas, on sait qu'on ne pourra pas la remonter. Il faut que derrière les chevaux, ça représente plus que 500 kg. Donc avec des techniques, c'est de la physique, hein. On n'a pas inventé ces techniques, on essaye de les mettre à profit, tout simplement. Et puis pareil, si celle travaille dans l'autre sens, dans le sens de la pente, là on doit avoir des techniques aussi précises et surtout une façon de mener les chevaux très, très précise, avec un très bon timing, avec des chevaux très très bien dressés pour savoir se détourner des charges, etc. Ça c'est plus technique cheval alors dans ce sens-là.
Mais si tu parles de parfois avoir déjà deux, mais peut-être même jusqu'à quatre chevaux, est-ce que ça veut dire qu'il doit y en avoir un homme ou peut-être une femme, voilà, mais une personne qui travaille pour chaque cheval, ou est-ce que c'est possible à travailler toi tout seul avec plusieurs chevaux?
Alors, dès qu'il y a des choses plus compliquées, des gros bois et qu'on a besoin d'attelés, de chevaux, on travaille forcément à plusieurs, mais normalement, une attelée, un bon meneur, il mène de toute façon deux chevaux. Alors on peut emmener qu'un, si c'est suffisant d'emmener qu'un, mais de toute façon un bon meneur mène une paire de chevaux, on n'est pas deux à mener. Après, si on travaille sur un chantier compliqué, on travaille en équipe, c'est-à-dire qu'on est deux meneurs de chevaux avec chacun deux chevaux, voire plus, voire trois meneurs de chevaux, avec deux et un. Et si on a besoin à certains moments, on rassemble les chevaux, c'est-à-dire que le deuxième meneur amène ses chevaux, donne un coup de main pour les mettre en place, mais après, il n'y a qu'un seul meneur. À deux, c'est trop compliqué. Pour être dans le bon tempo, c'est un seul meneur qui donne les ordres et conduit ses chevaux. À chaque fois, des chevaux extrêmement bien préparés et très bien dressés.
Moi, j'ai compris, en fait, des amis ici, qui, en fait, parce qu'ils ont bossé avec toi, mais eux, ils faisaient plutôt l'abattage des arbres, enfin, etc., que finalement, c'est un peu toi qui... bon, pas exactement mène tout ça, mais quand même un peu, c'est-à-dire que donne un peu le rythme, que ça tourne beaucoup, enfin, comme on travaille en équipe, tourne beaucoup autour du débardeur.
Les gens qui ont l'habitude de travailler savent aussi maintenant, ont appris à ce que c'est que une bonne coordination sur le terrain. Et c'est toujours plus difficile quand c'est une équipe nouvelle, parce qu'il faut à nouveau recadrer, faire un peu de pédagogie, savoir exactement qui fait quoi, dans quel sens on le fait et dans quel timing. Et une fois que les équipes sont prêtes, ils ont l'habitude de bosser ensemble, les choses se font facilement. C'est-à-dire qu'on aide les bûcherons dans certaines opérations pour tourner les bois ou désencrouer les bois, et les bûcherons vont nous aider sur une autre partie pour finir un arbre, etc. En fait, c'est très bien coordonné, mais c'est aussi pour économiser tout le monde, pour ne pas travailler n'importe comment, à l'arrache, comme on dit, plutôt travailler en souplesse, en réfléchissant un petit peu à ce qu'on fait.
Alors j'imagine qu'un grand avantage avec les chevaux, en tout cas dans une région comme ici, qui est très accidentée, c'est d'aller dans des zones où l'accès pour des machines, parce que maintenant c'est beaucoup les grandes abatteuses, enfin, mais des trucs énormes, mais qui peuvent difficilement peut-être arriver partout, mais surtout aussi pour des petits bouts de forêt où peut-être c'est plus intéressant pour des chevaux d'y aller, parce que finalement ce serait plus très rentable avec les grosses machines.
Oui, ben effectivement, un petit chantier de quelques jours, on se déplace plus facilement, on est plus maniable dans le déplacement qu'une grosse machine, parce qu'une grosse machine, si elle arrive, il la déplace sur un semis, et il faut effectivement qu'elle ait un gros volume de travail, parce que sinon, au niveau rentabilité économique, ça va être limite. Donc nous, effectivement, on peut se permettre d'aller plus sur des petites parcelles, se déplacer plus souvent, parce que c'est très facile pour nous de le faire, quoi.
C'était donc Florent Dalloz, débardeur à cheval. Lors de la rencontre du réseau pour les alternatives forestières en Ardèche, trois charpentiers ariégeois étaient également présents. Ils travaillent au sein d'une entreprise coopérative, la Bois-Boîte. Vincent Simon raconte.
Au départ, c'était un groupe qui s'était monté en association et dont le principe était un peu d'apprendre sur le tas avec des gens expérimentés sur les chantiers. Voilà, une fois le chantier trouvé, il fallait trouver le patron, il fallait l'embaucher et apprendre avec lui le métier.
C'est un peu l'inverse, quoi. On cherche le patron, mais après on trouve un autre, donc on n'a jamais un patron pour trop longtemps.
C'est ça. Ça permet de lisser un peu les choses et puis d'avoir un autre dialogue avec eux, quoi, et puis un autre rapport humain sur le chantier. Finalement, on a pris un peu d'autonomie avec le temps, et puis maintenant on arrive à mener nos propres chantiers en autonomie complète, et voilà, on s'est formé au fur et à mesure, là. Près de chez nous, chacun a suivi un peu sa voie, et on a un petit peu pris de la bouteille, comme on dit, et puis après, on s'est toujours entouré de gens avec qui on aimait travailler, des gens avec qui on a gardé contact, des anciens artisans, enfin, qui étaient à leur compte, qui maintenant travaillent aussi pour nous encore, mais... sous un autre rapport, quoi, une autre forme, qui travaille maintenant en tant que collègue, c'est lycée, vraiment les relations entre nous. Et voilà, on arrive à se réunir et puis tout mettre à plat, discuter les décisions, les choix techniques. Après, il y a un autre côté intéressant, c'est le rapport au client. C'est d'essayer de travailler aussi pour des gens qui ont cet esprit-là, de partage, de voir comment on arrive à monter quelque chose qui leur correspond, parler avec eux de leur projet, les accompagner là-dedans, pourquoi pas même de leur proposer d'échanger avec nous sur le chantier, de travailler ensemble. Et ça se passe très bien, en fait. On est relativement satisfait et on a l'impression d'avoir un retour positif par rapport à ça aussi, quoi. Voilà, j'ai l'exemple de notre dernier chantier, là où on a travaillé pour un éleveur qui avait récupéré du bois sur pied, qui l'a fait scier par notre intermédiaire. On a fait un débit de bois, pour une charpente, pour des bureaux, un atelier, etc. Et donc ça a été scié à l'automne. Nous, on est réintervenus plus tard pour remodifier les plans, voir avec eux comment ça pourrait leur correspondre, etc. Et puis mettre en œuvre ça avec eux, avec les moyens du bord, le levage à l'épaule et tout ça, c'était super. Et voilà, ça s'est terminé, tout le monde était content là. Voilà, ils ont un joli bâtiment.
Et la relation justement avec la forêt même en Ariège ou des gens qui travaillent dans la forêt, maintenant vous êtes venu donc à cette réunion du réseau pour les alternatives forestières, donc est-ce que vous avez déjà développé quelque chose de plus suivi par rapport à où vous cherchez le bois ou est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez développer ?
Alors oui, on a rencontré des gens sur l'Ariège, des forestiers, avec lesquels on a pu discuter un peu de la filière en amont, de voir un peu le bois d'œuvre. On était très sensible à ça, de savoir d'où ça venait, et puis on voyait un peu tout ce bois nous passer entre les mains sans savoir finalement qu'est-ce qu'il en était un peu plus en amont dans la filière. Donc là, on a essayé de se rapprocher déjà des scieurs pour obtenir quelque chose qui nous correspondait un peu plus, de qualité. Parce que c'est vrai que c'est un monde assez cruel où c'est un peu le commerce qui prend les dessus et pas souvent l'échange.
Pardon, il y a encore des petits scieurs, il y a des scieurs mobiles un peu là-bas parce que ça dépend énormément de la région. Ici en Ardèche, il y en a pas mal de petites scieries encore, mais il y a d'autres coins où il y a que des grands, quoi.
Oui, on peut dire que c'est un petit réseau de scieurs quand même en Ariège, organisé plutôt sur des vallées, etc., avec des bassins assez restreint et on a rencontré des gens vraiment avec qui on a dialogué et puis surtout des scieurs mobiles là comme tu dis c'est quelque chose qui nous a assez apporté et donc eux-mêmes étaient en relation avec des forestiers. Au fur et à mesure on a essayé de se rapprocher, de discuter de ça, de voir on a eu connaissance aussi de certaines entreprises qui géraient la forêt et l'aménagement forestier, leurs propres ressources et puis qui allaient jusqu'au bout, jusqu'à la mise en œuvre de leur bois, quoi. Donc voilà, c'est ce qui nous intéressait. On a des copains aussi qui se sont mis au bûcheronnage, au débardage à cheval, etc. On a un peu certaines perspectives. On a monté un petit groupe de discussion là sur le sujet. Et voilà, c'est un peu aussi pour ça qu'on est là, pour voir ce qui se fait, des initiatives, etc. Un peu gérer ça aussi, nous. On se demande encore comment le faire avec en gardant un esprit à s'y libérer par rapport au foncier, par rapport à tout ça. C'est difficile de se dire on va acheter une parcelle pour la gérer nous-mêmes. Voilà, le rapport à la propriété, tout ça, on se pose beaucoup de questions. Et finalement, si on rencontre les bonnes personnes, je pense à... Il y a un syndicat mixte qui s'est créé là, sur une vallée, là, dans le Céronais. Et donc on a essayé de se rapprocher d'eux. Ils faisaient déjà du bois déchiqueté pour les chaufferies. Et en même temps, ils avaient une ressource en bois qui se perdait. Et en Ariège aussi, il y a toutes les fabriques de pâte à papier, etc. Donc il y a vraiment une ressource très importante qu'il faut réussir aussi à mobiliser, des bois d'œuvre qui se perdent. Et donc, voir et que ça se passe dans le meilleur esprit, dans le partage un peu. On a essayé de fonctionner en expérimentation avec ce syndicat mixte là, Ariège-Valbois. Bon, ça s'est avéré assez positif. On a fait scier du bois avec une scierie mobile d'Eurosilva. Voilà, il y a le scieur qui est assez disponible et tout ça, qui nous apporte aussi son savoir. Il fait des travaux forestiers et tout ça. Voilà, ça nous permet un peu de voir un peu où on veut aller et tout ça, voilà.
Parce que c'est quand même assez vaste le savoir-faire qu'on peut acquérir, quoi. Je veux dire, il y a tellement d'essences différentes, enfin, l'utilisation de bois, que je pense qu'on peut continuer à apprendre toute la vie, en fait.
Ah oui, c'est certain, oui. Ah ben, on en est conscient, en même temps, on n'a aucune prétention. C'est difficile d'en parler, même. On a été sollicité pour des entretiens aussi. Dans le cadre du PNR, il y a un parc naturel régional qui s'est monté pour voir ce qu'on faisait, etc. Et puis on a été un peu, pas tant refroidi, mais un peu méfiant par rapport à la prétention qu'on pouvait avoir. Avant de dire qu'on sait faire, il faut expérimenter, il faut voir ce dont on est capable vraiment. Et puis, c'est toute la question un peu de la médiatisation autour de ça, quoi. Créer du sens dans ce qu'on fait avant tout, dans la manière d'agir au quotidien, localement, avec les gens, se rapprocher des gens. Bon, après, c'est sûr qu'il y a une mise en réseau et puis une communication nécessaire. Mais c'est vrai que c'est énorme, c'est assez vaste comme champ de réflexion. On voit tous les savoir-faire au fur et à mesure. On apprend un peu ça depuis la gestion forestière en elle-même. C'est hyper délicat de dire comment gérer une forêt, quelles essences privilégier. Hier, c'est un terme qui m'a plu dans la discussion, c'est essayer de mettre en forme une forme de cueillette, quoi, de cueillette des arbres sans déranger, sans essayer de modifier la nature, quoi. Et l'écosystème forestier, donc essayer de respecter ça au maximum et puis voir comment ça peut se perdre dans le maximum de respect.
Mais en fait, dans la zone, là, il y a Marie de Dordogne qui, déjà dans la dernière réunion, nous a beaucoup parlé des destructions absolument terribles. C'est pour ça qu'elle, en fait, elle s'est rendue compte de ce qui se passe et elle veut agir avec des coupes rases. Mais ces dernières années, vraiment beaucoup, quoi. Est-ce qu'on voit beaucoup ça en Ariège?
Alors non, les coupes rases, on en voit très exceptionnellement, quoi. Je sais pas ce qui peut expliquer ça. Je croyais ça interdit par le code forestier. Après, certainement, toutes les parcelles sont pas soumises à cet aménagement-là. Maintenant, c'est vrai que ça doit être lié un peu au foncier aussi. En Ariège, on a encore un patrimoine quand même assez protégé, assez joli à ce niveau-là. J'ai l'impression que ça se fait un peu plus ponctuellement. Je pense par exemple au droit d'affouage. Donc c'est un truc pour le bois de chauffage qu'on utilise encore beaucoup, quoi. C'est un droit qui nous permet d'avoir du bois de chauffage sur une commune, et puis ça se fait ponctuellement, les bois sont marqués. Alors après, c'est vrai que c'est délicat. Nous, on a travaillé aussi pour des particuliers qui avaient un petit bout de forêt, et puis où la réflexion était qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que là, si on prend cet arbre-là, finalement, en fonction des besoins, est-ce que ça va pas nuire au reste, etc. Donc faire attention à pas complètement détruire le truc. C'est vraiment délicat, quoi, de ponctionner, de savoir qu'est-ce qu'on laisse en place pour qu'il y ait une régénération naturelle qui se fasse. Et moi j'ai un peu étudié la question aussi en Roumanie, où il y avait beaucoup de coupes rases. Sur l'aménagement forestier, il y avait beaucoup de questions encore qui se posaient, et notamment dans les forêts des Carpates, dans les montagnes un peu inaccessibles, où là il y avait encore des sociétés forestières et des concessions qui se mettaient en place un peu à la sauvage et qui ravageaient tout, quoi. C'est un peu lamentable.
Voilà beaucoup de questionnements qui reviennent souvent dans les débats au sein du réseau pour les alternatives forestières. Comment conjuguer une approche qui protège l'écosystème tout en arrivant à vivre du travail forestier? La parole est maintenant à Gérald Houlan, qui est installé dans le Luberon, dans le Vaucluse. Il est surtout élagueur, mais a également appris les métiers du bûcheron et de débardeur à cheval. Alors, c'est quoi exactement un élagueur?
C'est un métier, il porte plusieurs noms. Il y en a qui disent élagueur, d'autres arboriste grimpeur. Enfin, le principal du métier, c'est grimper dans les arbres et couper, tailler les arbres. Il y a plusieurs facettes. Soit on taille les arbres pour des raisons humaines, parce qu'il faut savoir que l'arbre n'a pas besoin de nous pour vivre. C'est une question de sécurité, une question de lumière, une question de proximité avec les bâtiments. Après, il y a une autre facette d'abattage de précision. Quand les arbres sont trop près des maisons, qui deviennent dangereux à cause des tempêtes, à cause de la neige, etc., Parfois, on est obligé d'abattre un arbre complètement parce qu'il devient dangereux. Mais quand il y a un bâtiment en dessous, il faut utiliser du matériel précis pour pas faire de dégâts à la maison. Donc, c'est un métier assez vaste et pas compliqué, mais il faut être assez précis. Et c'est un métier qui s'apprend. Et il y a une expérience à acquérir pour arriver à faire quelque chose de qualité sans rien casser. Et voilà. Donc moi, j'ai appris ce métier il y a 15 ans. J'ai appris à Montélimar. Je suis belge. Il n'y avait pas d'école en Belgique, donc je l'ai fait à Montélimar parce qu'il y avait que cette école-là. Il y avait que 3 écoles en France, mais j'ai choisi celle-là. Et puis après, je me suis mis à mon compte et j'ai fait ma clientèle du bouche à oreille. Je bosse beaucoup comme ça, quoi. Mais c'est un métier, si on veut le faire convenablement, il faut être assez précis. Et après, on peut le faire de différentes manières. Moi, j'ai choisi la manière de... C'est pas le client qui est roi chez moi, c'est l'arbre.
Ce qui peut vouloir dire peut-être que tu refuses un boulot parce que tu n'es pas d'accord avec l'approche du propriétaire.
Voilà, tout à fait. Souvent, j'explique au client que c'est pas bon ce qu'il me demande, du style « était l'arbre ». Pour plus de lumière, pour moins de feuilles, etc. J'explique comment fonctionne un arbre, que c'est pas bon. Après, il y a des clients qui écoutent ce que je dis et qui disent « Bon, c'est vrai, je suis ignorant, je connais pas. Vous avez raison, je vais dans votre sens. » Et après, il y a des gens qui veulent absolument ce qu'ils ont demandé, plus de lumière, et qui veulent pas abattre l'arbre complètement parce qu'ils veulent quand même de la verdure. Mais ça les embête pas de mutiler l'arbre. Sans problème, quoi. Donc ces clients-là, ben, je les perds parce que comme je refuse de faire ces travaux-là, je perds le client. Mais comme c'est un métier où il n'y a pas d'accès à la profession, n'importe qui va à la chambre des métiers et dit « je veux être élagueur », ben, il achète une tronçonneuse, une échelle et il va travailler chez le particulier, il n'y a pas de problème. Donc pour massacrer les arbres, ils peuvent prendre n'importe qui, donc ils n'ont pas besoin de moi.
N'empêche, c'est quand même relativement, en tout cas potentiellement dangereux. Je veux dire, on est en hauteur, avec des tronçonneuses. Déjà, il y a pas mal de dégâts, des accidents avec des gens au sol. Hein. On dit que c'est un des métiers où il y a le plus d'accidents, quoi, les bûcherons. Donc j'imagine qu'il faut être drôlement sûr de soi, connaître bien l'arbre, l'équilibre, enfin je sais pas quoi, si on veut s'amuser là-haut hein, avec quand même une machine qui coupe très vite un bras ou je sais pas quoi.
Ouais, mais en fait c'est à double tranchant. Il y a des gens qui font ce métier-là parce qu'ils aiment bien le risque. Moi c'est un peu mon cas, j'aime bien les sensations, le risque. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est que on n'a pas droit à l'erreur. Il faut être précis si on veut rester en vie et pas avoir d'accident et pas se blesser. Parce que quand on coupe un arbre ou une branche ou qu'on démonte un arbre, bah, si ça se passe mal, on ne peut pas partir en courant. Donc on reste à côté et si on a fait une erreur, ça paye tout de suite, quoi.
Juste pour visualiser, je veux dire, parfois on parle de démonter un arbre, donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est toujours un peu obligé, j'imagine, ou parfois de couper ce qui est plus haut de soi, c'est-à-dire ça va tomber et si ça tombe d'une façon non prévue, ça peut être très gênant, j'imagine.
Oui, oui. En fait, le démontage, c'est on coupe l'arbre en petits morceaux et on a des systèmes de poulies, de cordes et des systèmes de freinage qui nous permettent de retenir tout ce qu'on coupe avec ces cordes. On peut retenir des morceaux très gros, donc quand on coupe le tronc, on peut retenir des morceaux d'une tonne avec une seule personne en bas, grâce à ce système de freinage. Donc c'est tout du matériel spécifique à l'élagage, donc c'est des cordes spéciales avec une résistance spéciale, des poulies et tout ce matériel, c'est spécialisé en élagage. Depuis une dizaine d'années, il y a des gens qui sont penchés sur le problème et donc qui fabriquent du matériel spécial élagage. Donc on commence par le haut, on coupe toutes les branches et effectivement à un moment on va couper au-dessus de la poulie, mais nous on est à côté de la poulie donc il faut vraiment être précis parce qu'à un moment donné la branche elle va être freinée, donc l'arbre va se secouer, il va y avoir des chocs, donc il faut faire ça précisément pour pas casser de matériel et pas faire de mal aux utilisateurs, donc la personne qui est dans l'arbre. Et la personne au sol doit être qualifiée aussi, parce qu'il suffit qu'elle fasse une erreur de rétention, ça s'appelle comme ça, et il peut blesser l'élagueur qui est en l'air, parce qu'il a une mauvaise formation et qu'il ne sait pas comment faire, quoi.
C'est un peu la même relation qu'on peut avoir quand on fait l'escalade et il y a celui en bas, il a beaucoup de responsabilités finalement.
Voilà, à la différence qu'en escalade, la personne qui est en bas retient l'autre personne. Qu'en élagage, l'élagueur est autonome, il est retenu par des cordes, des systèmes de freinage aussi, mais c'est un système de freinage personnel. Donc l'élagueur se retient lui-même et c'est lui qui gère sa descente, etc. Il y a juste un démontage où la personne au sol retient la branche.
En général, l'élagage, c'est des arbres qui sont plus ou moins isolés, c'est-à-dire que c'est des arbres proches d'une maison, peut-être une file électrique ou une route, ça peut être des platanes, on voit ça beaucoup, hein. Mais ce n'est pas tellement à l'intérieur des forêts.
Si, on peut utiliser les élagueurs en forêt sur des arbres de qualité, sur du bois d'œuvre par exemple, un arbre de grande hauteur qui est fourchu par exemple. Si on l'abat directement, on risque d'abîmer la grume et s'il ne tombe pas comme il faut, elle va se fendre en deux et on perd le bois d'œuvre. Donc on fait grimper un élagueur pour faire, ça s'appelle de l'éoupage forestier. Donc on va démonter sans rétention, là. On va viser pour ne pas abîmer la végétation en bas et on va laisser que le tronc qu'on va abattre après, le bûcheron abattra la grume qui va rester intacte. Donc on ne perd pas la qualité. Donc ça c'est pour la qualité du bois et après, on peut utiliser les lagueurs pour la même chose, démonter l'arbre avant abattage, pour éviter d'abîmer tout ce qu'il y a autour. Si on veut préserver les jeunes plantations, les autres arbres qui ont de l'avenir qui sont autour, on peut utiliser le démontage dans ce but-là.
Mais ça veut dire que c'est, en général, c'est dans des forêts avec une très grande valeur, enfin les arbres, par exemple dans la forêt méditerranéenne, ou enfin des forêts où il y a, selon les experts actuels, peu de bois d'œuvre, c'est pas tellement ces endroits-là où on va trouver un élagueur.
Non, c'est plutôt dans les forêts où on fait du bois d'œuvre. Moi, il y a des endroits où je fais des démontages. C'est plus dans des endroits privés, des parcs, des grands parcs, où il y a des bois de valeur, que moi, je vais valoriser en récupérant le bois pour faire du bois d'œuvre après. Mais ça, c'est une autre partie que j'ai développée moi-même. Quoi.
Donc, en fait, toi, tu ne restes pas uniquement voilà, le travail de démonter les arbres et tout ça, mais tu as des idées et même une pratique par rapport à ce qu'on peut faire avec le bois.
Voilà, moi, j'ai essayé de diversifier parce que l'élagage, ça fait 15 ans que je pratique. Donc, j'ai fait le tour du métier. J'aime toujours grimper dans les arbres parce que tous les arbres sont différents, donc c'est toujours différent. C'est jamais pareil, que ça soit de la taille ou du démontage, ça sera jamais la même chose. Donc c'est toujours intéressant. Mais bon, quand on fait ça toute l'année, ça devient un peu de la routine. Donc moi, ce que je fais, c'est j'ai une scierie mobile. Donc je valorise les bois que je vais démonter chez des clients. Sur place, soit j'évacue le bois et puis je le valorise autrement. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de bois de chauffage, qui n'ont pas besoin de planches. Donc ils n'en feront rien du bois. Donc je l'évacue et puis après je le scie et je le redistribue ou je le revends ou je refais des travaux chez moi, de faire des planches. On trouve toujours une utilité pour des poutres, des planches avec le bois. Quoi. Il y a ça. Et puis j'ai une autre partie où je me forme en débardage avec les chevaux, ce qui est complémentaire aussi dans mon métier vu qu'il y a des chantiers où je dois évacuer le bois, où je dois évacuer les branches. Donc plutôt que d'utiliser un tracteur, un 4x4 pour sortir le bois ou les branches, j'utilise des chevaux. J'ai fait ça par passion pour les chevaux, mais en fait, je gagne du temps et je suis beaucoup plus rentable qu'avec un tracteur ou quelque chose de mécanique. Et en plus, j'abîme moins. Et vis-à-vis des clients, il y a des chantiers que je récupère parce que je le fais avec les chevaux.
Le cheval, tu ne vas pas amener forcément sur tous les chantiers, c'est pour les chantiers particuliers, c'est ça?
Voilà, il y a des chantiers où je ne les prends pas parce qu'il ne faut pas évacuer le bois, où le bois reste sur place, où je broie les branches sur place. Donc s'il n'y a pas besoin des chevaux, je le prends pas. Quoi. Mais par contre, en démontage, il y a des moments où il faut tirer les branches pour les écarter du toit, etc. Ce que je faisais avant avec des hommes de pied, ça s'appelle, les gens qui travaillent au sol, qui tiraient sur les branches pour écarter du toit ou pour les diriger. Maintenant, j'ai essayé avec les chevaux et un cheval tire différemment et beaucoup plus gros sans se forcer. Donc c'est complémentaire aussi. J'ai utilisé les chevaux en démontage pour faciliter le travail. Quoi.
Ce qui est le côté peut-être le plus fantastique, j'imagine, pour un bûcheron, un forestier, on pourrait dire quelqu'un qui travaille dans la forêt, c'est de revenir sur le même lieu et de voir comment ça s'est évolué, que voilà, le travail qu'on a fait il y a 10 ans, ça a vraiment apporté quelque chose à la forêt. Est-ce qu'on peut dire la même chose avec un élagueur?
Ben, ce qu'il y a, c'est qu'en élagage, enfin, comme les forestiers, l'arbre n'a pas la parole. Donc, par l'observation, on arrive à dire ben, ça serait mieux de faire comme ça. Mais au début, on a beau nous apprendre des choses, on n'est pas sûr que c'est la vérité, entre guillemets. Donc, c'est vrai que de revenir sur des chantiers qu'on a fits il y a 5-10 ans, eh ben, on voit ce qu'on a fait, comment ça a évolué. Et donc, ça nous permet d'avancer et de nous faire une expérience de ce qu'on pourra faire par la suite. Parce que c'est sûr que, comme dans la forêt, on peut avoir fait des erreurs. On ne détient pas la vérité, je ne détiens pas la vérité, et personne ne peut dire face à la nature que c'est comme ça qu'il faut faire. La nature, elle n'a pas besoin de nous. L'élagueur, il existe à cause de l'homme. L'arbre, il n'a pas besoin de nous. S'il s'écroule, il s'écroule. S'il s'écroule sur quelqu'un, c'est pour ça que l'élagueur est là. C'est pour éviter les problèmes, quoi.
Finalement, c'est un peu le malheur de ces arbres-là qui sont juste à côté d'une maison. Ou d'une... je veux dire, s'ils étaient ailleurs, peut-être on aurait laissé tranquille, c'est ça?
Voilà, exactement. C'est ce que je dis aux gens. Les gens qui me disent « Oui, mais il faudrait couper l'arbre parce que j'ai plus de soleil. » Je dis « Mais écoutez, l'arbre, lui, il n'a pas la chance de pouvoir se mouvoir. Lui, il n'a pas choisi d'être là. Il est là. Il ne bougera pas. Ça fait 30, 40, 100 ans qu'il est là. Vous, vous avez acheté, vous avez un papier comme quoi l'arbre vous appartient. Et c'est un petit peu dommage de dire ben, « Je vais faire ça, je vais le massacrer juste pour avoir un peu plus de soleil. » Alors que vous, vous prenez votre chaise et vous pouvez aller la mettre au soleil. Ou enlever un arbre parce que ça fait des feuilles dans la piscine. Maintenant, je refuse de couper un arbre parce que ça fait des feuilles ou que ça embête à cause de la piscine, quoi. C'est aberrant.
Après Gérald Houlon, élagueur dans le Luberon, écoutons encore Pierre Linck, qui fait partie de l'équipe qui vit à la ferme biodynamique de Saint-Laurent, en Bourgogne. L'un des grands intérêts du réseau pour les alternatives forestières est qu'il réunit des praticiens de la forêt et de la filière bois, mais aussi des propriétaires de forêts, à la recherche de méthodes de gestion intelligentes et respectueuses de l'écosystème. Pierre Linck.
J'habite en Bourgogne du Sud, à près de Cluny, dans un petit village qui s'appelle Château, et sur un domaine agricole qui a aussi de la forêt, 45 hectares de forêt, qui s'appelle Saint-Laurent. Voilà. C'est un domaine cultivé en agriculture biodynamique, sur lequel le projet agricole est en bonne voie depuis plus de 15 ans. Par contre, on n'a pas eu le temps de s'occuper de la forêt. Et ça, je trouve que maintenant, on commence à être motivé pour aller vers la gestion réelle de cette forêt, c'est aussi un besoin. Et en même temps, dans ce domaine de Saint-Laurent, nous faisons aussi de l'accueil pédagogique et nous accueillons des stages de formation de toutes sortes. Par exemple, le mouvement de culture biodynamique organise une partie de ces stages chez nous. On peut faire toutes sortes de stages aussi, apprendre à faire des murs en pierre sèche, enfin voilà. Et donc, nous initions cette année aussi un séminaire pour la gestion durable et écologique de la forêt.
C'est un projet qui a été démarré il y a quelques années, quoi, par pas mal de personnes qui se sont mis ensemble pour permettre voilà, ce projet de démarrer, non? C'est ça?
En 1992, trois familles d'agriculteurs ont acheté ce domaine avec l'aide de plusieurs dizaines de preneurs de parts de SCI pour acheter le foncier. Depuis 2 ans, l'emprunt qu'il a fallu faire pour terminer le paiement de cet achat est payé, donc maintenant... nous sommes dans une procédure de faire passer ce foncier, patrimoine foncier de ce domaine, à Terre de Liens, ce qui correspond tout à fait aux objectifs premiers. le projet initial comportait donc agriculture biodynamique, comportait aussi accueil pédagogique et pédagogie et formation en général, et un volet recherche qui n'a pas encore été construit mais qui est à faire. Voilà.
Et en fait, donc, les personnes qui ont travaillé là jusqu'à présent, c'est plutôt des agriculteurs, si j'ai bien compris, ou peut-être des éleveurs, mais pas tellement des gens qui connaissent le travail de la forêt.
Oui et non. Le problème, c'est qu'être agriculteur dans une ferme diversifiée qui fait la production, la transformation et la vente, plus la reconstruction des bâtiments et tout ça, ils n'ont pas le temps de gérer vraiment la forêt. Donc nous prélevons notre bois de chauffage dedans, il y a eu quelques prélèvements pour du bois d'œuvre et puis c'est tout quoi. Mais une réelle gestion, pas encore.
C'est un peu quoi comme forêt ?
C'est de la forêt assez diverse parce que nous sommes d'une part sur le calcaire et d'autre part sur le granit. Et puis il y a des versants exposés comme ci, comme ça. Donc mais on n'a pas beaucoup de bois d'œuvre quand même. Mais néanmoins c'est une forêt intéressante dans laquelle il y a du potentiel quand même. Et effectivement, ce sont des agriculteurs qui travaillent là, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas faire. On n'a pas eu l'énergie et le temps.
Pialinck a évoqué Terre de Lien, qui est devenu propriétaire de la ferme de Saint-Laurent. Cette association, qui cherche à favoriser l'accès collectif aux fonciers, est aujourd'hui propriétaire d'une cinquantaine de fermes en France, dont plusieurs ont des surfaces boisées importantes. C'est pourquoi une relation de partenariat et de réflexion commune est en train de se créer entre Terre de Lien et le réseau pour les alternatives forestières, afin d'élaborer une sorte de charte de gestion forestière. Dans l'avenir, Terre de Lien pourra aussi jouer un rôle important dans la mise hors spéculation et donc aussi hors destruction de domaines forestiers. Revenons à Pialinck. L'une des idées principales du réseau est d'arriver à mettre le savoir-faire et l'expérience de ses membres à la disposition de propriétaires de forêts intéressés, par exemple à la ferme de Saint-Laurent en Bourgogne.
Certainement bienvenue chez nous, hein. Je le dis parce que je peux le dire aussi, je parle au nom de tout le monde maintenant, mais je pense que je peux le dire, oui. Bienvenue à ce genre de collectif et d'activité, évidemment. La mise en commun de savoir-faire, etc. Et puis on pourra peut-être, j'imagine dès maintenant, déjà une rencontre chez nous dans X temps, qui pourra aussi pousser un petit peu à ce brassage d'idées, voilà.
La volonté de travailler en équipe avec des amis et des collègues est largement partagée par les membres du réseau. Gérald Houlan.
Ben moi, depuis que je me suis installé, je suis parti du principe que je ne voulais pas de salariés parce que ça coûte cher et que je fais beaucoup de choses dans l'année qui sont différents. Et j'aime pas avoir quelqu'un toute l'année, la même personne avec qui je travaille. Donc moi, depuis le début, je travaille en collaboration avec d'autres élagueurs, d'autres bûcherons. En fait, je prenais les personnes qualifiées pour mes chantiers, qui ont le bon matériel et qui ont la bonne compétence pour tailler du cyprès ou pour faire des démontages. Il y a des gens qui sont meilleurs dans certaines branches que dans d'autres, c'est le cas de le dire. Donc je prenais les personnes adéquates. Après, j'ai rencontré Florent pour ma formation avec les chevaux. Donc j'avais commencé avec les chevaux tout seul dans mon coin et puis je suis vite arrivé à un moment où je me suis dit j'arrive à des limites, il y a des trucs que je vois pas où je vais, je comprends pas ce qu'il faut faire. Donc je suis allé me former, j'ai appelé Florent et je lui ai demandé de me former avec les chevaux. Donc c'est comme ça que je suis rentré en contact avec Florent. On a bien sympathisé, j'ai continué ma formation avec lui. Et en fait, on commence à faire des chantiers en commun parce qu'il a besoin de bûcherons. Comme je suis élagueur, je suis bûcheron aussi parce qu'un bon élagueur est d'abord un bon bûcheron. Et puis comme je mène les chevaux aussi, sur un chantier, c'est intéressant d'avoir un bûcheron élagueur débardeur. C'est polyvalent, je joue un peu bouche-trou, donc c'est pratique. Et puis comme Florent travaille avec Trénas, Trénas je le connaissais par d'autres. Et c'est vrai que sur des chantiers, c'est intéressant d'avoir différentes personnes et c'est beaucoup plus rigolo de faire des chantiers en commun. Ça va plus vite et on s'amuse, quoi. Moi, mon métier, c'est ma passion et autant travailler en s'amusant, quoi.
c'est quelque chose qu'on a déjà mis en place depuis plusieurs années, parce que entre débardeurs professionnels, on a déjà monté un groupement qui s'appelle Débardage Cheval Environnement, déjà depuis 4 ou 5 ans, parce qu'on collaborait déjà ensemble, on a appris à se connaître au fil des années, à essayer de défendre un petit peu les mêmes choses et avoir un peu la même éthique.
Florent Dalloz.
Donc on avait déjà commencé par monter un groupement professionnel et maintenant on l'élargit à d'autres réseaux de sylviculteurs, bah ici avec les gens de Trénas, avec d'autres entreprises comme Gérald qui font de l'élagage et maintenant qui se forment aussi au cheval. Donc on élargit le réseau pour avoir un maximum de... maîtriser un maximum de techniques. Voilà, et on avance doucement comme ça. Voilà. On essaye de s'ouvrir, de ne pas rester fermé.
Alors, est-ce que maintenant, on peut dire que c'est quelque chose, ce métier, qui prend de l'ampleur, qu'il y a de plus en plus de propriétaires de forêts qui cherchent ou qui emploient des débardeurs à cheval. Et aussi, j'aimerais savoir s'il y a un intérêt chez les jeunes pour apprendre.
Eh bien, il y a un intérêt, mais peut-être qu'on va le trouver justement dans ces réseaux, plus que dans les gens qui sortent de formation classique, parce que pour le moment, ça patine un petit peu de ce côté-là. On n'a pas énormément de jeunes qui ont envie de s'investir suffisamment. Mais il me semble qu'on va... Après avoir passé un week-end comme on vient de passer, je pense que dans ces réseaux-là, je pense qu'on va en trouver des gens motivés. Je pense que là, ça va peut-être ouvrir des perspectives à certains. Ça veut dire aussi qu'il faudra qu'ils se forment et qu'ils rentrent vraiment dans ce métier, qui n'est pas un métier tout facile, qui est un métier extrêmement satisfaisant. C'est vraiment un plaisir de travailler avec des chevaux quand on fait du beau travail. Il y a une satisfaction qu'on ne retrouve pas dans d'autres métiers, mais ça veut dire aussi que les gens devront se former à apprendre le métier des chevaux vraiment comme il faut, quoi. Pas en dilettante.
C'était Entre cimes et racines, la 4e émission dans cette série réalisé par Radio Zinzine en partenariat avec le Réseau pour les alternatives forestières. Pour tout renseignement sur ce réseau, vous pouvez contacter son animateur, Gaëtan Dubus, à l'adresse électronique suivante gdubus, donc gdubus, gestion-forestière-sud.com. Vous pouvez aussi consulter la page forêt sur le site de l'association Reliés, www.reliés.info.